que la biomédecine ou les médecins soient tous pareils. Dieu merci, ça fait, c'est pas du tout le cas dans les. Corpus des sciences sociales et de la santé, ça a été une des premières choses quand même à investiguer, que justement cette hétérogénéité, cette pluralité des professions médicales.
J'ai peut-être mal compris un certain nombre d'interventions ici, mais il me semble quand même que c'était quand même présenté souvent comme qu'il n'y avait pas forcément de séparation, que la distinction n'avait pas toujours été opérée entre la biomédecine et...
Les représentations d'anthropologues ne sont pas nécessairement représentatives de ce qu'est l'anthropologie.
Non, mais je sais. Mais c'est pour dire aussi que, du coup, on a cette espèce d'a priori que le médecin, parce qu'il a été formé à la biomédecine, il va s'occuper que des maladies. Et c'était pour dire que c'est pas plus vrai que de dire que le médecin est collé à la biomédecine.
La biomédecine, enfin, c'est dommage, j'ai pas eu le temps dans votre rendu de Dakar, mais il y a Véronique Duchesne qui a présenté une intervention vraiment passionnante. Elle parlait d'un praticien qui se présentait comme biomédecin, parce qu'aujourd'hui on mange bio, on mange bio.
Oui. Oui, tout à fait.
Oui. Et en fait, je pense qu'il y a un effet. Les études scientifiques sont une forme de réduction de la réalité. Donc, en plus, les présentations pédagogiques sont une forme supplémentaire de réduction des textes. Donc là, je pense qu'il y a cet effet-là. Et qu'en plus, je me disais aussi que dans ma présentation, ce qui manquait un peu, enfin, quitte à vous retourner le miroir que vous nous tendez sur notre analyse des médecins, c'est de fait, vous n'imaginez pas non plus la forme de le sujet patient. Qui n'est pas complètement assujetti à une biomédecine et dont justement les travaux d'Achille mais plein de gens montrent qu'en fait ils sont quand même pas très compliants ou ils font un peu leur petite cuisine.
Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que dans le modèle de l'EBM, le cercle patient ne doit pas être oublié.
Oui, non, mais après, ça c'est votre cuisine à part. Par contre, moi je voulais revenir un peu sur l'industrie. C'était la deuxième question que vous voulez sur la première présentation. Je sais que vous n'avez pas du tout travaillé sur l'élaboration de l'essai clinique. Ce que j'ai compris, c'est que l'usage de cette molécule avait été déterminé par l'analogie avec le traitement du diabète.
En fait, il y a eu un essai sur des paillasses, sur des rats.
Ah oui, d'accord.
Qui laissait prévoir effectivement une efficacité pour stabiliser la maladie. Et cette molécule, elle était déjà utilisée dans un médicament pour soigner le diabète.
Oui, c'est ça. Donc je me demandais quel était le rôle de l'industrie qui produit cette molécule, à moins que ce soit un ensemble d'industries qui produit cette molécule, dans. L'élaboration de l'essai, dans la suggestion de ce type d'essai, enfin voilà, c'était une question là pour le coup.
Non, c'était pas l'initiative du laboratoire. Hein. Bon, le laboratoire a été associé pour produire un placebo qui soit identique, en tout cas visuellement, à la molécule. La pharmacie a été collaboratrice à ce niveau-là, c'est tout. Non, il n'y a pas eu de.
Vous aviez une intervention aussi ?
Oui, c'était une question par rapport à ce que vous dites. J'ai pas compris ton terrain, en fait. C'est quoi ?
J'ai pas franchement de terrain. Moi, je suis pas anthropologue ni sociologue. La réflexion, c'est par rapport à la pratique médicale. J'ai travaillé une dizaine d'années en Afrique et en Asie en tant que médecin, hein, pas du tout en tant qu'anthropologue non plus. Et du coup, c'est aussi de voir, comment dire, à un moment, j'ai été choquée par l'opulence qu'on avait en Occident, et ça me choque aussi toujours d'une certaine manière, et par l'insatisfaction et l'insatisfaction que pouvaient exprimer les patients et aussi que pouvaient exprimer les médecins, les collègues. Et j'avais envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut créer un malaise, qu'est-ce qui peut faire qu'on n'ait plus envie d'être médecin, alors qu'on est quand même dans un système qui est intéressant. Enfin, on a quand même, les pharmacies sont bourrées à craquer, on parle de désertification médicale, bon, je suis d'accord, mais quand même on n'est pas au Soudan. Enfin, y a quand même toute une réflexion qu'on pourrait mener autrement, à mon avis. Et ça a été un peu ça, ma porte d'entrée. Et après, il y a aussi le fait qu'on se retrouve sur la pression des laboratoires pharmaceutiques. Il y a aussi tout le truc de l'individualisation des soins. Je trouve que ça pose des grandes questions. Et tous les enjeux autour des bases de santé, des bases de données actuellement, je trouve que c'est des enjeux qui sont étonnants. À qui vont appartenir ces bases de données? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? À quoi on va les comparer? Je trouve qu'il y a des enjeux qui sont énormes. Et par rapport à certaines interventions, par exemple, où ils montraient bien que c'était justement l'absence de bases de données qui posait problème en Afrique et qui créait du coup une espèce d'inexistence sociale. La jeune femme qui est intervenue sur la morbimortalité au Sénégal, je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais c'était l'inexistence sociale finalement qui faisait mourir d'une certaine manière. Donc ça rejoignait cette histoire que les facteurs de santé sont autre chose que l'accès aux soins, mais ça rejoignait aussi l'idée que ces données-là peuvent prendre sens dans l'accès à la santé. Donc effectivement, je comprends qu'à Dakar, ils aient été contents d'avoir eu en même temps les interventions du Nord en face des interventions du Sud. Parce que sur l'histoire des bases de données, par exemple, si on confronte les situations, ça donne des trucs qui deviennent indécents d'une certaine manière.
Mais là, moi, ce que je trouvais intéressant dans les présentations de ce matin, c'était aussi que, en fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux médecines traditionnelles, c'était pas tellement voir comment les patients dans cet essai clinique vont se tourner vers des médecines alternatives, mais voir comment cet essai joue le rôle
d'une médecine alternative
dans un contexte africain, en fait. C'est-à-dire avec une poudre dont on ne sait pas si elle marche ou pas, mais dont tout le monde espère qu'elle marche, dont on présente et dont on laisse penser pendant longtemps qu'elle va marcher, parce que rien que le fait de prendre en charge la personne dans le cadre de l'attribution de cette poudre permet une amélioration de son état, en fait. Moi, c'était plus ça.
C'est un rituel de guérison.
Exactement. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de voir comment, dans certains essais cliniques, dans certaines situations, la médecine... la biomédecine va reproduire en fait les mêmes mécanismes que la médecine traditionnelle. Et je pense que ce que vous disiez ce matin sur le fait que souvent on opposait biomédecine que souvent on faisait un bloc avec biomédecine, médecin, etc. Mmh. C'est aussi parce qu'il y a eu souvent pendant ce colloque une opposition justement entre biomédecine et médecine traditionnelle. Mmh. Mmh. Et donc je pense que c'est ça qui encourage un peu le bloc. Alors que justement, comme disait Sandrine, ce qui est intéressant, c'est de regarder que finalement... c'est les mêmes effets, un essai clinique de ce type-là, que ce soit au nord ou au sud, quoi. Donc c'est ça, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant à comparer. Bon, j'ai l'impression que tout le monde est parti au café, donc je pense qu'on peut peut-être clore cette session et rejoindre le mouvement avant la...